Le cinéma, c'est du théâtre en conserve. Disait Louis Jouvet, loin de moi le désir de vous enfermer dans une boîte. Bien au contraire, notre rendez-vous hebdomadaire avec le 7e art a pour vocation de vous suggérer les nouveautés qui sont à l'affiche dès aujourd'hui dans toutes les salles obscures. Bonjour, Alim, avec vous pour ce mercredi 8 juin. Nous avons sélectionné pour vous quelques longs métrages dans des registres différents. Pour ce qui est de la comédie, il y a Vicky, réalisé par Denis Humbert. Il y a également American Hero de Nick Love. Dans le registre dramatique, vous avez le choix entre Diamant Noir, réalisé par Arthur Harari. Sinon, La Quatrième Voix de Gurvinder Singh. Et toujours dans la même gamme, Illégitime, un film franco-roumain de Adrian Sitaru. Nous avons en outre retenu un suspense réalisé par Nicolas Winding Refn, avec pour titre The Néon Démon. Et comme chaque mercredi, nous avons pensez à vous proposer un documentaire. Aujourd'hui, il s'agit de Ouragan, réalisé par Cyril Barbanson, Andy Biat et Jacqueline Farmer. Puis, c'est le moment de l'entracte en musique. Le groupe pop-rock britannique, formé dans les années 80 avec au chant et à la basse Mark King, sont avec nous tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de Level 42 et leur fameux tube Listen in Love. Juste après, nous dressons le portrait de la semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons au parcours artistique de Patrick Chenet. Il est à nouveau à l'affiche dans Celui qu'on attendez, film franco-arménien réalisé par Serge Avidikian. Enfin, nous clôturons cette première demi-heure dédiée au 7e art par votre séquence Souvenez-vous, un voyage que nous vous offrons dans les archives du cinéma, histoire de se remettre en mémoire ce qui fut à l'affiche il y a 10, 20, 30 ans, voire plus. Installez-vous confortablement, bienvenue via la radio, c'est tout de suite. Le financement au cinéma. Les enjeux financiers autour d'une œuvre cinématographique sont généralement considérables. Cela est dû à la présence d'un grand nombre d'intervenants dans le processus de création d'un film, ainsi qu'aux moyens techniques utilisés, souvent importants. Une activité économique s'est donc organisée dès le début du cinéma pour assurer d'une part la collecte des fonds nécessaires à la production et d'autre part la rentabilisation des investissements. Les résultats au box-office sont donc déterminants, d'autant que les recettes des autres médias, télévision et vidéo, sont corrélées au succès en salle. Le prix de vente aux chaînes de télévision est en fonction bien sûr du nombre de spectateurs. Ainsi, les chaînes de télévision se sont impliquées de manière croissante dans le financement du film et les industriels ont également apporté leur concours en utilisant le grand écran comme vecteur de valorisation pour leurs produits. L'apparition de supports utilisables dans les foyers, dans un premier temps la cassette vidéo, puis le DVD et plus récemment le Blu-ray, représente à partir des années 80 une nouvelle source de revenus de plus en plus importante. Parallèlement, la commercialisation des produits dérivés comme les jouets pour enfants, jeux vidéo ou encore le disque de la bande originale du film et les campagnes conjointes, une marque s'associe au film afin de bénéficier de son image, complète le panorama des recettes. En France, pour aider au financement dans le long métrage et dans le but de favoriser les producteurs débutants, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée délivre automatiquement un soutien financier. Dans la même optique, les Sofica, société de capital investissement, financent près de 5,5% des œuvres cinématographiques en échange d'un pourcentage sur les recettes, mais sans aucun droit sur les négatifs. Depuis leur création en 1980, elles ont investi près de 380 millions d'euros dans plus de 700 films. Si pour le moment les producteurs ce sont les premiers ordonnanceurs d'un film, la télévision tend à les rattraper. Par exemple, TF1 a investi plusieurs millions d'euros dans 19 films au début des années 2000. Cependant, il demeure d'autres pays où cinéma et télévision n'ont pas ce même type de relation et de financement a posteriori. Aux États-Unis, la télévision ne finance pas ou peu les productions à la différence des grandes majors. De la même manière, le cinéma allemand, lui, est financé par subvention. En 1977, elle représente près de 80% du financement des films. En Corée du Sud, les films sont financés par quota dans les années 1960 pour essayer de refaire surface devant le cinéma américain. Et en 1990, c'est grâce à l'intervention de trusts industriels que plus de 300 films seront produits par an. De plus, lors du développement, le vendeur ou distributeur du film joue désormais un rôle crucial dans l'élaboration du scénario et du script. En effet, pour décider de distribuer un film, le vendeur cherche une histoire souvent grand public qui donnera un box-office bénéfique. En ce sens, le cinéma d'auteur n'est plus privilégié lors de la distribution. Cependant, le développement du partage de fichiers informatiques pair à pair, qui permet l'échange entre particuliers de films sur Internet, fait craindre aux professionnels du cinéma une crise telle que celle que traverse l'industrie du disque. Tout de suite, la sélection des sorties de ce jour. Nous démarrons par les comédies. La première, il s'agit d'un film réalisé par Denis Imbert avec pour titre Vicky. Les premiers rôles sont confiés à Victoria Bedos, Chantal Lobby et François Berléand. À presque 30 ans, Victoire, la petite fille dernière de la célèbre famille Bonhomme, l'éternel enfant sage de la tribu, décide enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, le sexe et sa voix.
Vicky, c'est moi. Et entre un père qui me couvre trop, trop grand, une mère un peu déjantée.
Si je le coupe au milieu, ça m'en ferait deux.
Et un frère s'élève.
Chant.
C'est pas facile de trouver sa place.
Parfois, je me dis que t'as de la chance d'être personne.
Tu vas voir si je suis personne.
Pourquoi tu vas pas voir Jean-Marie ? Il pourrait te reprendre.
C'était un stage.
J'ai rien à vous proposer. Ou un stage.
J'ai l'impression d'avoir pris perpète.
Tu sors de prison, toi, ou quoi ?
Bah, ça y est, elle a vu le loup.
Quoi ?
J'accouche le premier soir. Certains trouvent ça bizarre.
Tu m'étonnes qu'ils trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça carrément choquant.
Mon corps vit, mon âme se lasse. Alors, les mâles passent dans mon lit.
Ils s'entassent. Donc là, c'est quoi ? C'est une partouze ?
C'est une fille qui se libère. C'est pas vulgaire, c'est mignon.
Ah non. Ah non, c'est pas mignon, non. Ah non, du tout, non. Ah, ça te fait rire, toi ?
Elle s'amuse.
Qu'est-ce que tu sens ?
Elle sent le sexe.
Ah, c'est ça, je me disais, je connais cette odeur, mais j'avais oublié.
Vous êtes en train de salir la famille, là.
De manière spontanée, Victoria Bedos a commencé par raconter sa vie en vrac à Denis Imbert, le réalisateur, à savoir ses expériences professionnelles, familiales, amicales ou amoureuses. À partir de là, une première esquisse du scénario est née. Comme quoi, ça ne tient pas à grand-chose. Seconde comédie à l'affiche dès ce mercredi, American Hero, film américano-britannique réalisé par Nick Love avec Stephen Dorff, Edin Griffin et Luis Da Silva Jr. Melvin est un super héros malgré lui, la trentaine bien entamée. Il habite encore chez sa mère et ne vit que pour la fête, les femmes et la drogue. Jusqu'au jour où il réalise que la seule façon pour lui de revoir son fils, que la justice lui interdit d'approcher, c'est d'accepter son destin et d'exploiter ses super pouvoirs pour lutter contre le crime.
Melvin is not like other people. We came to discover he had abilities to move objects using only the power of his mind.
He has so much to offer the world, and has so much potential for him.
Are you feeling okay?
Sure, Mom.
Never better.
Your heart stopped beating for several minutes. You were certified dead.
Lying there in the hospital, I realized something. I'm gonna change. I'm gonna start fighting crime, not committing it. What you got is a gift.
American Hero est le sixième long métrage du réalisateur britannique Nick Love, à qui l'on doit notamment The Sweeney et The Football Factory, qui n'ont pas connu de sortie en France. On change de registre, après la comédie, place au film dramatique. Diamant Noir, réalisé par Arthur Harari, avec dans les rôles principaux Nils Schneider, Auguste Diel et Raphaël Godin. Pierre Ullmann vivote à Paris, entre Chantier et Larsen, qui commet pour le compte de Rachid, sa seule famille. Son histoire le rattrape le jour où son père est retrouvé mort dans la rue après une longue déchéance. Bête noire d'une riche famille de diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien à part l'histoire de son bannissement par les Ullmann et une soif amère de vengeance.
<t'->
vous n'étiez pas au courant du tout qu'il était malade?
Non, j'avais 15 ans la dernière fois que je l'ai vu.
Passe me voir un de ces jours à Anvers, si tu veux. On est cousins, quoi, merde.
Vous, ça marche plutôt bien en ce moment.
Les diamants, c'est juste une pierre transparente, tu vois. On décide que ce caillou vaut cher et ça crée de la richesse.
Merci de m'accueillir. Remercie mon fils, Louis, qui t'a accueilli.
T'es là souvent, toi?
Je suis ici, en fait.
Tu es le fils de Victor? Ça t'intéresse, le diamant?
Ouais.
Ce qui fait la différence, c'est l'œil. Qu'est-ce que tu en es?
Je crois pas que ce soit un diamant, ça.
Ne fais jamais plus quelque chose derrière mon dos, sinon te dégage. Tu n'es pas chez toi ici.
L'histoire de Victor Hulman, né dans une famille de diamantaires à Anvers, en Belgique. Sa main a été broyée par une machine devant son frère qui n'a pas bougé pour l'aider. Et là, là, là et là, c'est les caméras.
Il y en a pour combien?
Il a parlé de 20 millions.
Je sais qu'il fait mal, je sais qu'il paye, je sais qu'il souffre.
Diamant noir en salle dès aujourd'hui. L'origine de cette idée de situer l'intrigue du film dans le milieu des diamantaires vient du producteur Grégoire Debailly. Ce dernier avait lu un article dans un grand journal sur la recrudescence des braquages en Europe. Autre film dramatique en salle dès aujourd'hui, il s'agit de Illégitime, un long métrage franco-roumain réalisé par Adrian Sitaru avec Alina Grigor et Adrian Titieni. Lors d'un repas de famille, quatre frères et sœurs découvrent le passé polémique que leur père leur a caché, tandis que cette révélation divise la famille. Un autre scandale surgit, Romy et Sacha, frères et sœurs jumeaux, entretiennent secrètement un amour fusionnel et physique.
Partage-moi la copine.
Voilà. Pola de papeși cu degetele puncte.
Nu simți nevoia să te și lege în timp ce cânți la asta?
Servus,
mai m-a bine.
Tata, îmi vreau să fiu ceva. Nu adevărat. Ai denunțat la securitate, nu, la poliție. Vreau la Ceaușescu. Oameni care veneau să... femei care veneau să facă abort.
Adică nu înțeleg, făceai parte din sistemul ăsta de securitate?
Ce-i să așa?
Adică, de ce trebuie acum scormonit în trecutul lui?
Mă iubești?
Da.
Ok, atunci lasă-mă să fac ce vreau.
Ce pula mea a fost asta?
Și dragi seama, mie mi se pare. Ai patru copii să te manifesti în felul ăsta, nu să fie. Într-un fel sau altul să existe.
Tu nu poți să faci așa la toată familia!
Teria! Nu mai vorbi în felul ăsta cu mine, că nu știu ce-ți fac!
Nu, Osmar!
Voi spuneți tot tatălui vostru tot ce faceți?
On change de registre après le drame, place à l'intrigue et au suspense dans The Neon Demon. Vous pouvez retrouver dans les principaux rôles Elle Fanning, Jenna Malone et Bella S. Scott. La réalisation est signée Nicola Winding Refn. C'est l'histoire d'une jeune fille qui débarque à Los Angeles. Son rêve de devenir mannequin, son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousie et convoitise. Certaines filles s'inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.
Je vois 20 ou 30 filles débarquer ici chaque jour, venant toutes de bled paumées avec les mêmes rêves de célébrité. Et elles sont toutes belles. Toi, tu vas être sublime.
La beauté ne fait pas tout. Elle est tout.
Elle a ce truc.
Regarde, Jessie.
Qui préfère la viande avariée à la chair fraîche? Je sais de quoi j'ai l'air. Les femmes tueraient pour me ressembler. Prévu ce soir ou pas?
C'était comment ma mère m'appelait.
The Néon Démon en salle dès aujourd'hui. Avant de marquer une pause en compagnie de Level 42, dernière sélection de ce mercredi, on passe au documentaire réalisé par Cyril Barbanson, Andy Biat et Jacqueline Farmer. Ce film instructif a pour titre Ouragan. Son existence est brève mais dramatique. Né en Afrique, il grandit au-dessus de l'Atlantique et meurt un mois plus tard en Amérique. Les survivants se confient, leurs vies sont dévastées, jeunes et anciens livrent leurs peurs et pourtant acceptent leurs pertes. Avec un regard qui passe du divin au terrestre, l'ouragan brise les équilibres, mais il ramène la lumière.
J'aurais pu être un simple nuage, un petit vent, comme ceux qui naissent et qui meurent chaque jour dans les plaines d'Afrique centrale. Mais en ce jour de mois d'août, la pression chute. Je peux entamer ma métamorphose.
Acaba de convertirse en un huracán categoría 1.
Make this a tropical storm, Luke.
Copy. We'll see.
Las lluvias que caían y el río que comenzaba a crecer. Yo no quiero morir aquí.
Clearing Puerto Rico and heading towards Cuba.
Vous ne me connaissez pas tant que vous n'avez pas vu mon cœur.
Luke has grown massive since yesterday.
El huracán Lucía es...
91 MHz à Montpellier et ses environs, 103.1 du côté de Nîmes et son agglomération via le réseau Alliance Plus. On se retrouve dans un instant pour le portrait de la semaine. Aujourd'hui, nous le consacrons à un comédien qui est à nouveau à l'affiche dans Celui qu'on attendait. Ce comédien n'est autre que Patrick Chesnais. Restez avec nous, vous êtes sur FM+, et vous faites bien.
The truth is
Level 42 sur FM+. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Juste avant cette pause, je vous ai fait part de la sélection des sorties de la semaine. Tout de suite, intéressons-nous au parcours de Patrick Chesnais. Pardon. C'est dans le portrait de la semaine. Patrick Chesnais, acteur, comédien, réalisateur, dialoguiste et scénariste français, né le 18 mars 1947 à la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, fils d'Alexis Chesnais, dessinateur industriel, et de Gisèle Collet, mère au foyer. Patrick Chesnais fait ses études au collège Bellefond et au lycée Corneille à Rouen. Il a également fait une année en cours préparatoire de l'école française de radio-électricité. Bien qu'une carrière prometteuse de footballeur s'offre à lui, mais il préfère et il fait bien de s'inscrire au conservatoire de Rouen, puis il intègre à 18 ans, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, où il obtient le premier prix de comédie en 1968. Il se consacre alors durant 10 ans au théâtre. Il fait ses débuts devant la caméra de Jacques Rosier dans Les Naufragés de l'île de la Tortue en 1974. Il enchaîne ensuite de nombreux rôles de personnages atypiques, que ce soit dans L'Empreinte des Géants de Robert Enrico, La Provinciale de Claude Goretta ou dans Les Sacrifiés de Okacha Toiti, en 1983. En 1989, Patrick Chesnais remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle pour sa composition dans La Lectrice aux côtés de Miu Miu. À la fin des années 80, il s'illustre dans des comédies populaires telles Les Cygnes n'en font qu'à leur tête et Promotion Canapé, deux films réalisés par Didier Kaminka. En 2000, il réalise Charmant Garçon, film pour lequel il obtient le prix Alain Poiret du meilleur réalisateur au Festival international donc des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. Depuis, il tourne avec une nouvelle génération de cinéastes tels Manuel Poirier pour Te Quiero, Rémi Waterhouse pour Mille Millièmes en 2002 et ou Philippe Harel avec Tu vas rire mais je te quitte en 2004. Patrick Chesnais est en tout et pour tout a joué dans 78 films pour le cinéma, 35 pour la télé et a joué dans plus de 57 pièces de théâtre. Quel parcours! Aujourd'hui, il était une fois de plus à l'affiche dans Celui qu'on attendait, film franco-arménien réalisé par Serge Avidikian, aux côtés de Patrick Chesnais, Arsine Kandjian et Robert Arutyunyan. Waouh! C'est l'histoire de Jean-Paul Bolzec, parti jouer son spectacle pour une société française installée en Azerbaïdjan. Sur le chemin de retour vers l'aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec est abandonné sur une route déserte, au milieu de nulle part. Sans s'en rendre compte, il franchit à pied la frontière avec l'Arménie, en guerre larvée avec son voisin l'Azerbaïdjan depuis des années. Bon courage!
Je cherche un... Avion.
Les Balkans pour nous, c'est vraiment le foutoir.
Balkans ? Caucase ici.
Excusez-moi, mais les Français sont nuls en géographie. Hein. Ça, alors là.
Melkuri Perkichna, Luisna, Huisna, Amenichi Pori, Inktata, Inkna, Vachare.
Uvarus, Pasumeng, Zergalu. Viva la Française. Viva Grenoble.
Grenoble.
Egy francia címemet kocsakor. Kikini pasfal nélküli azeri spioni. Borúzom ezt Gyurga Kandi.
Projetez-vous de commettre des actes contraires aux intérêts de la République d'Arménie?
Moi? Mais non, mais pas du tout, au contraire, j'adore l'Arménie!
Aznavourian? Aznavour.
Est-ce que tu pourrais arrêter de me faire chier avec Aznavour?
Celui qu'on attendait avec Patrick Chesnais en salle dès aujourd'hui. Sachez que le tournage a eu lieu dans un petit village reculé, non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Les conditions ont donc été inhabituelles pour chacun. Patrick Chesnais a dû composer avec une langue qu'il ne connaissait pas et a tout de même dû parler pour le film. Tout de suite, c'est l'heure de votre séquence. Souvenez-vous.
Thank you.
Souvenez-vous, en 1966, Jacques Besnard réalise une comédie dans laquelle Monsieur Septime dirige brillamment son grand restaurant, temple parisien de la gastronomie, où se pressent les personnalités en vue. Mais un jour, un chef d'État d'Amérique du Sud y est enlevé au moment de la mise à feu d'une splendide pièce montée. Les premiers rôles sont confiés à Bernard Blier, Maria Rosa Rodriguez et bien sûr le grand Louis de Funès. Il s'agit bien évidemment du film Le Grand Restaurant.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Des œufs mimosa, monsieur Septime.
Vous appelez ça des œufs mimosa, vous?
Oui, monsieur Septime.
J'ai déjà dit que pour simuler le feuillage des œufs mimosa, je voulais de l'estragon et... Une...
Ah, oh!
Allez, qui c'est qui a fait les œufs mimosa?
Ah, c'est lui, monsieur Mimosa.
C'est lui, là?
Oui, oui.
Dis donc, c'est toi qui a fait ça?
Oui, alors.
Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà.
Je m'en fous, parlez-en au chef.
Je m'en fous, moi je m'en fous du chef.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va, mon petit Marcel?
Très bien. Qu'est-ce qu'il y a?
Il n'y a rien, c'est un des broutilles.
C'est monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil.
Dans le mimosa?
Oui.
Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon.
Ben, c'est ce que je lui disais.
Oh non, 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 il disait de l'estragon.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content de mon petit filleul?
Ah, c'est le petit filleul, ça? Hein?
Tiens, Louise.
Ah, oh, le petit filleul, peut-être. Ça va, Louise?
Très bien.
Et vous, ça va, petit Marcel?
Très, très bien. Tant mieux. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas?
Ah oui. Il faut que j'aille là-bas.
Il est complet, celui-là, c'est le seul. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Prenons ça comme ça, hein.
Touche pas à ça, il est mal élevé ce moment, enfin quand
qu'est-ce
même.
Qu'est-ce que c'est?
Mais touche à ça tout de même.
Touchez pas à ça.
Ravi d'avoir passé cette première demi-heure dédiée au 7e art avec vous. Je vous laisse en de bonnes mains. Béatrice Malige prend le relais avec un nouveau Ciné+. Bonne séance à toutes et à tous. Bye bye.